VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de ce jeudi 12 septembre 2019. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. En direct de Washington, je suis Irène Armanon-Bon en compagnie de
Michel Joseph.
Nous avons le plaisir de vous présenter cette édition dont voici les titres.
Au Mali, le collectif citoyen lève son blocus après avoir reçu des garanties du gouvernement.
Confirmation de la réélection du président Muhammadu Buhari, le tribunal électoral du Nigeria a rejeté toutes les plaintes de son principal adversaire.
Retour de la dépouille de Robert Mugabe au Zimbabwe. Plusieurs jours d'hommage sont prévus alors que le pays reste divisé sur l'héritage controversé du feu président.
Aux États-Unis, les candidats à l'investiture du Parti démocrate pour la présidentielle de 2020 s'affrontent ce soir à Houston. Nous en parlerons dans ce journal.
Ouverture à Brazzaville de la 5e édition du Forum Investir en Afrique. Le continent veut renforcer sa coopération technologique avec la Chine.
La maîtrise du numérique et de l'innovation technologique marquera encore, sans le moindre doute, les relations entre la Chine et l'Afrique.
Ne manquez surtout pas la Minute Éco, l'actualité économique en Afrique et le sport, respectivement avec Nanit Talani et Yacouba Ouédraogo, mais avant tout, le journal.
Dans le centre du Mali, le collectif citoyen qui bloquait depuis 4 jours l'accès à l'aéroport de Tombouctou pour réclamer la construction d'une route a décidé hier de lever le blocus après avoir reçu les garanties du gouvernement. À Gao, des milliers de manifestants ont continué de réclamer des mesures similaires. Le point avec Abdourahmane Dia.
Un protocole d'entente a été signé entre le gouvernement et le collectif Tombouctou réclame ses droits. Pour la levée du blocus, selon le porte-parole du gouvernement Yaya Sangaré qui était sur place. Le gouvernement s'est engagé à reprendre au plus tard, le 25 novembre, les travaux sur la route reliant Tombouctou, Niafunké et Léré. En échange, le collectif a accepté de lever immédiatement toutes les restrictions sur les routes et le blocus de l'aéroport de la ville dite au 333 Saint. Par contre, des milliers de personnes ont manifesté à Gao contre la dégradation de l'axe routier Gao-Sévaré. Un collectif a aussi été formé à Menaka, près de la frontière avec le Niger, et mène un sit-in depuis lundi avec des revendications similaires. Toutes ces manifestations interviennent 2 semaines après la libération par le gouvernement de fonds d'urgence pour la réfection de la route entre Bamako et Kai à la frontière avec le Sénégal, qui a été bloquée pendant plusieurs jours à la fin août.
Toujours au Mali, un soldat a été tué et 7 autres a blessé hier mercredi dans la région de Tombouctou, dans le nord du pays, dans une embuscade tendue par des hommes armés, a-t-on appris de sources militaires et locales.
C'était une attaque complexe avec une pose d'engins explosifs improvisés suivie de tirs selon des témoins. L'attaque a été menée par des individus armés à bord d'un pick-up. Les forces armées maliennes ont riposté, puis un renfort est venu de Goundam, ont-ils renchéri, tout en indiquant que les blessés ont été admis à l'hôpital militaire de Tombouctou.
Au Nigeria, le tribunal électoral a confirmé hier la réélection du président Muhammadu Buhari, rejetant les plaintes de son principal adversaire qui dénonçait une fraude massive pendant l'élection du 23 février 2019. Les précisions avec Gilbert Tamba à Abuja.
C'est l'épilogue après les recours déposés devant le tribunal par le candidat du principal parti d'opposition, le PDP, lors du scrutin présidentiel du 23 février dernier. L'ancien vice-président Atiku Abubakar, candidat du PDP, contestait la validité de la victoire du président Muhammadu Buhari qui a déjà commencé son second mandat. Selon Atiku Abubakar, une enquête sur le serveur central de la Commission électorale nationale indépendante a montré que le PDP avait accueilli plus de 18 millions de voix, alors que les résultats définitifs de la CENI lui donnaient un peu plus de 11 millions de voix. Atiku Abubakar a également accusé le président Buhari d'avoir menti sur ses diplômes et devait donc être disqualifié. La commission électorale a nié ces accusations et les avocats de Buhari ont déclaré que le président était tout à fait qualifié. Le tribunal a jugé que l'ancien vice-président Atiku Abubakar n'avait pas fourni des preuves suffisantes des fraudes qui pourraient entacher la crédibilité du scrutin. Le président Buhari peut se concentrer maintenant sur ses promesses électorales pour son second mandat, lutter contre la corruption et venir à bout des groupes Boko Haram.
La dépouille de l'ancien président Robert Mugabe a été rapatriée au Zimbabwe hier mercredi en provenance de Singapour. Plusieurs jours d'hommage sont prévus, ainsi que des obsèques nationales, alors que le pays reste divisé quant à l'héritage controversé de ses 37 ans de règne absolu. Les précisions avec Jacques Aristide.
Recouvert du drapeau zimbabwéen, le cercueil de Robert Mugabe a été porté par des soldats à l'aéroport de la capitale Harare hier, en présence du président Emmerson Mnangagwa et de Grace Mugabe, la veuve du défunt chef de l'État. Pour ses détracteurs, Robert Mugabe a laissé derrière lui un pays meurtri par la répression et ruiné par une interminable crise économique et financière. Dès aujourd'hui, sa dépouille va être exposée au stade Rufaro pour permettre aux Zimbabwéens de lui rendre hommage d'après le gouvernement. Puis dans l'après-midi, le corps doit être conduit dans le village de Zimba. Le lieu de l'enterrement, prévu ce dimanche, n'a toujours pas été révélé et fait l'objet, selon des médias, de tractations entre la famille et les autorités.
Au Mozambique, au moins 10 personnes sont mortes lors d'une bousculade dans un stade de la ville de Nampula dans le nord à l'occasion d'une réunion électorale du président Filipe Nyusi, annoncé hier le parti au pouvoir un mois avant des élections générales.
À la fin d'un événement pour la campagne électorale au stade du 25 juin, 85 membres de notre parti ont été blessés, dont 74 sont sortis de l'hôpital et 11 sont toujours en soins, a indiqué le Front de libération du Mozambique, Frelimo, dans un communiqué. Malheureusement, 10 militants de notre parti sont morts, poursuit le communiqué.
Le ministre algérien de la Justice a présenté hier au Parlement un projet de loi qui prévoit la création d'une autorité indépendante en charge des élections. Elle se chargera d'organiser le prochain scrutin présidentiel sans que le gouvernement ne s'implique dans le processus.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, les 10 principaux candidats à l'investiture du Parti démocrate en vue de la présidentielle de 2020 s'affrontent à Houston ce soir dans un nouveau débat. Les sondages donnent l'avantage à l'ancien vice-président Joe Biden. Les précisions avec Eric Manirakiza.
Ce soir, les 10 candidats occuperont à Houston le même podium à la Texas Southern University, université historiquement réservée aux Noirs. Certains candidats ont déjà abandonné la course, d'autres en mauvaise posture dans les sondages qui n'ont pas satisfait aux exigences en matière de collecte de fonds ont été exclus. Le favori Joe Biden dit qu'il peut battre facilement le président sortant Donald Trump, mais il est talonné par le sénateur Bernie Sanders du Vermont et la sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren de l'aile gauche du Parti démocrate. La sénatrice de la Californie Kamala Harris et les autres vont essayer de s'élever pour inverser la tendance. L'assurance santé, la réglementation des armes à feu, l'immigration sont des thèmes qui unissent les démocrates, mais les candidats ne s'accordent pas sur les solutions. Ils vont aussi concentrer leurs attaques sur le président Trump. D'autres débats sont prévus avant les primaires du Parti démocrate l'année prochaine.
En Angleterre, le Premier ministre Boris Johnson a essuyé un nouveau revers mercredi. La justice écossaise a déclaré illégale la suspension controversée du Parlement jusqu'au 14 octobre, soit 2 semaines seulement avant la date du Brexit.
Le gouvernement déçu a aussitôt annoncé faire appel auprès de la Cour suprême à Londres et l'audience doit se dérouler mardi. En attendant, le Parlement reste suspendu. La décision de justice ne change rien pour l'heure, a souligné une source gouvernementale. Le Labour, le principal parti d'opposition, tout comme la première ministre écossaise Nicola Sturgeon, ont réclamé que le Parlement, suspendu depuis mardi, soit rappelé immédiatement.
Le gouvernement cubain a dénoncé hier la suspension de plusieurs comptes Twitter de médias officiels au moment même où le président Miguel Díaz-Canel s'exprimait en direct à la télévision pour évoquer les pénuries d'essence dans l'île.
Carnet noir de cette édition, l'auteur, compositeur et dessinateur américain Daniel Johnston est mort hier à 58 ans, a indiqué son frère et manager Dick Johnston. Objet de culte dans le milieu rock alternatif, il a bâti en près de 40 ans un univers poétique, unique, habité par les utopies enfantines, la difficulté de communiquer et l'amour perdu.
L'énigmatique auteur, compositeur, interprète et artiste plasticien avait fait des allers-retours à l'hôpital ces derniers mois pour des problèmes liés à ses reins, selon Dick Johnston, mais sa mort était pour lui inattendue. Les Beatles, le super-héros de BD Captain America, Casper le Fantôme ou encore King Kong figuraient parmi les héros récurrents de ses compositions, souvent artisanales, entre pop et country, alliant avec brio, puissance mélodique et dramatique. À présent, le tour de l'actualité économique, c'est avec Nanit Talani.
Le Burkina Faso a suspendu les autorisations d'importation d'huile alimentaire et de sucre afin de permettre aux acteurs de trouver des solutions au grave dysfonctionnement du marché des produits concernés. Toute importation sans titre constitue une infraction et sera punie par la loi. Le Burkina produit annuellement 35 000 tonnes d'huile alimentaire, soit la moitié de sa consommation, ainsi qu'entre 30 000 et 35 000 tonnes de sucre, soit environ le quart des besoins domestiques. Le Mozambique bénéficiera d'un crédit de 10 millions d'euros de l'Allemagne pour booster les micro, petites et moyennes entreprises opérant dans le secteur agricole. Les emprunts se feront sur la base d'un taux d'intérêt inférieur à 15% par an. L'agriculture bénéficie actuellement d'environ 4% des prêts bancaires totaux. Elle fournit 25% du PIB du Mozambique et soutient près de 75% de la population. La Banque centrale zambienne s'oppose à toute initiative du gouvernement visant à supprimer le contrôle exercé par les législateurs sur l'acquisition de nouvelles dettes publiques. Le gouvernement a proposé des modifications constitutionnelles en août pour supprimer le droit des législateurs d'approuver de nouveaux prêts du gouvernement. La Law Association of Zambia a également saisi la Cour constitutionnelle pour obtenir le retrait du projet de loi. Pour terminer, le Zimbabwe a nommé un comité de politique monétaire au sein de sa banque centrale dans le cadre d'un ensemble de réformes visant à éliminer les distorsions économiques. Ce comité assurera une consultation sur les taux d'intérêt et devrait garantir la stabilité des prix et la détermination des limites des opérations de la banque de réserve du pays.
Place au sport avec Yakuba Ouedraogo. Bonjour Yakuba.
Bonjour Eman, bonjour à tous.
Un renfort pour le DC Motema Pembe en RDC.
Après un passage éclair au Liaoning Caxin en Chine, l'attaquant Vini Bonganga est revenu à la maison pour renforcer les troupes du coach Isaac Ngata. Après avoir éliminé les Camerounais du stade Renard au tour préliminaire de la Coupe CAF, le Daring Club va défier au premier tour les Soudanais d'El Watani. Pour cette saison, les Immaculés ont pour ambition de se qualifier pour les phases de groupe de cette compétition. Le match aller se joue demain à Khartoum.
La CAF a trouvé une structure pour l'audit de l'institution.
Aujourd'hui, nous avons annoncé que le PwC a remporté l'appel d'offres pour effectuer un audit complet de la CAF. Il devra être rendu en novembre et servira de base pour la suite des réformes pour le bien du football en Afrique, a annoncé le président de la CAF, Ahmad Ahmad, sur son compte Twitter. L'audit a été au cœur des débats lors de la réunion du comité de la FIFA et de la Task Force tenue hier au siège de la CAF. Les débats ont aussi porté sur l'organisation efficace et professionnelle des compétitions. La secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura, a entamé une partie de ce travail depuis le 1er août dernier.
Le Rwanda est candidat à l'organisation des mondiaux de cyclisme en 2025.
Le Rwanda a officiellement déposé sa candidature pour l'organisation de l'événement. Reconnu comme une nation de sport, le Rwanda vise encore plus haut. Après un tour international qui a été maintenu à 2.1 depuis cette année et l'organisation des championnats d'Afrique de cyclisme en 2018, le pays des mille collines envisage les championnats du monde de la Petite Reine en 2025. Le Rwanda a déjà organisé des compétitions africaines, notamment les CAN des moins de 17 ans et des moins de 20 ans.
Les États-Unis surpris par la France en quart de finale de basket.
Les Américains double champions du monde et triple champion olympique en titre ont été éliminés par les Français 89-79 malgré 29 points et 6 rebonds de Donovan Mitchell, Team USA, du mythique coach Greg Popovich a sombré en fin de match face au rythme imposé par la France avec notamment des prestations XXL de Rudy Gobert, 21 points et 16 rebonds. Et Ivan Fournier, 22 points et 4 passes décisives. De son côté, l'Australie a pris le dernier billet pour les demi en battant la République tchèque en quart de finale, 82-70. Les demi-finales se joueront vendredi et opposeront l'Australie à l'Espagne et la France à l'Argentine.
Merci, Jacoba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Irénée Hermanongo. Le Monde aujourd'hui se poursuit sur VOA Afrique. Place à présent au dossier du jour. Les ministres de la sécurité des pays du G5 Sahel sont en réunion à Ouagadougou, au Burkina Faso. Il s'agit d'une rencontre capitale au regard de la récurrence des attaques terroristes dans le Sahel. Cette rencontre se tient à quelques jours d'un sommet des chefs d'État de la CEDEAO qui devrait discuter de l'élargissement de la force du G5 à d'autres pays. On fait le point avec notre correspondant à Ouagadougou, Lamine Traoré.
Ici à Ouagadougou, ministre de la Sécurité, de la Défense, spécialistes et experts réfléchissent sur les moyens d'action de lutte contre le terrorisme dans la région.
Il faut une plus grande synergie des efforts, des actions entre les différents ministères, enfin entre différents décideurs.
Sambo Sidikou est le secrétaire permanent du G5 Sahel.
Qui est qui? Qui nous mène la guerre? Ces informations sont vitales, importantes. Nous les avons, c'est évident. Mais encore faut-il les mettre ensemble pour arrêter une stratégie plus précise, plus efficiente. Nous savons tous qu'aujourd'hui, la région des trois frontières, Niger, Burkina, Mali, est un problème majeur pour nous. Nous savons très bien que Kidal est un problème majeur. Nous savons bien que la forêt de Ouagadougou est un problème. Nous savons bien que le lit du lac Tchad est un problème. Ce sont des sanctuaires inacceptables pour nos États.
Ce refrain sur la coopération, la mutualisation des forces est aussi ancienne que la force commune. Mais les observateurs assurent que les États ne font qu'en parler, sans résultat concret pour ces problèmes urgents de sécurité. Le vœu de plus de coopération a été formulé. Ousseyni Compaoré, ministre de la Sécurité du Burkina.
Je voudrais lancer un appel vivant pour que toutes les forces, toutes les énergies des pays du G5 Sahel, en collaboration avec toutes les forces, toutes les capacités, toutes les expertises sur le plan international et sous-régional se mettent ensemble pour conjurer, pour arrêter le terrorisme dans l'espace du Sahel.
Un message partagé par les autres ministres.
La réponse au terrorisme est une réponse strictement militaire, c'est très clair. Cela a toujours été défendu par les chefs d'État.
Mohamed Bazoum, ministre de la Sécurité du Niger.
Nous avons besoin de coordonner nos renseignements. Nous avons besoin de coordonner toutes les actions qui peuvent découler des informations susceptibles d'être acquises dans le cadre justement de ce dispositif que nous allons mettre en place. Nous ne sommes pas venus ici pour définir des stratégies et les porter à la connaissance des journalistes pour qu'elles soient portées à la connaissance du public et des terroristes eux également. Mais nous sommes venus pour faire un travail de réflexion qui va être extrêmement utile dans une bataille qui est longue.
Cette rencontre se tient au moment où l'espace sahélien connaît de nombreuses attaques terroristes. Ces derniers jours, plus d'une trentaine de personnes ont été tuées dans le nord du Burkina. Samedi, un sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO, élargi au Tchad et à la Mauritanie sur la lutte contre le terrorisme, se tiendra à Ouagadougou. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
La dépouille de l'ancien président du Zimbabwe, Robert Mugabe, décédé à l'âge de 95 ans, est arrivée à Harare en provenance de Singapour où il est décédé la semaine dernière. Des obsèques nationales sont prévues pour ce dirigeant qui a passé 37 ans au pouvoir. Plusieurs dirigeants africains sont attendus à Harare. En novembre 2017, l'armée l'avait poussé vers la sortie. Abdourahman Dia a demandé au président guinéen Alpha Condé en visite à Washington ce qu'il retenait de Robert Mugabe, réponse.
Mugabe a été un très grand président, une fierté pour l'Afrique, parce que Peut-être que vous êtes jeune pour ne pas savoir que c'était la Rhodésie du Sud quand Ian Smith a décidé, contre l'avis de l'Angleterre, de créer une sorte d'État blanc en faisant des Noirs de Bantoustan. Mais il faut reconnaître aussi que les accords de Lancaster l'Angleterre s'était engagée à indemniser les fermiers blancs pour qu'on puisse faire la réforme agraire, ce qui n'a jamais été respecté. Pendant un moment, l'économie du Zimbabwe allait très bien parce qu'ils étaient des grands fournisseurs de maïs et le grenier. Mais comme l'Angleterre n'a pas respecté ses engagements, évidemment, Robert Mugabe a fait la réforme agraire. Malheureusement, ça a été un peu plus politique qu'on peut le dire. On a donné aux anciens compagnons et autres qui n'étaient pas les mieux indiqués pour cultiver. Donc ça a fait que l'économie a baissé. Évidemment, à la fin, il y a eu beaucoup de problèmes avec le comportement de sa femme, mais on ne peut pas oublier qu'il arrive qu'un nègre vole plus bas qu'une poule, mais une poule ne volera jamais plus haut qu'un nègre. Donc pour moi, quelles que soient les vicissitudes, Mugabe reste un nègre.
D'accord. Est-ce que vous regrettez la manière dont il a été poussé à la sortie?
Vous savez, le président actuel a été un des principaux lieutenants du président Mugabe. Il a été formé en Chine et il l'accompagnait tout le temps. Le drame, c'est le comportement de la deuxième femme de Mugabe qui a voulu mettre de côté tous les héros de la guerre. Étant donné que Mugabe était fatigué, elle a voulu manipuler. Donc c'est ça qui a été la cause. C'est moins dirigé contre Mugabe que contre elle, parce que le président actuel est quand même un historique. Il a suivi dès le début la lutte armée. Donc ces gens-là aujourd'hui sont quand même les compagnons de Mugabe.
C'était le président guinéen Alpha Condé au micro d'Abdourahmane Dia.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, focus sur la Guinée à l'occasion de la visite du président Alpha Condé aux États-Unis. Le locataire de Sékou Touré est venu promouvoir la destination Guinée aux investisseurs américains. Mais en Guinée, le débat sur une éventuelle réforme de la Constitution occupe à nouveau la une des journaux après l'annonce du président de consultation dirigée par le Premier ministre. Le débat sur un possible troisième mandat d'Alpha Condé est-il fondé? Comment faire pour propulser l'économie guinéenne vers l'émergence? Nous allons évoquer toutes ces questions avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Au Congo-Brazzaville, 5 chefs d'État africains ont appelé hier la Chine à financer les projets de développement initiés tant par le secteur public que privé du continent. C'était à l'ouverture de la 5e édition du Forum Investir en Afrique, organisé à Brazzaville par le gouvernement chinois, la Banque chinoise pour le développement et la Banque mondiale. Les précisions avec Arsène Séverin.
À travers la 5e édition de son forum consacré aux investissements en Afrique, la Chine revient proposer de nouveaux financements pour les pays en mal de développement. Cette fois-ci, l'économie numérique, aux côtés des infrastructures et de l'énergie, occupe le cœur des discussions qui se déroulent à Kintele, au nord de Brazzaville. Léon Justi Bombo, ministre en charge de l'économie numérique du Congo-Brazzaville.
C'est une entreprise chinoise, CCC, qui va justement interconnecter le Congo avec le Cameroun, le Congo avec la République centrafricaine. Et l'équipementier Huawei va fournir les équipements de ce projet. Donc le partenariat avec la Chine, c'est un partenariat fécond. Et nous avons besoin justement de la valeur ajoutée de la Chine.
Un des orateurs au forum, l'entrepreneur Véron Manco, à qui l'Afrique doit sa première tablette, estime que la Chine est capable de soutenir les jeunes développeurs de logiciels et d'applications du continent.
La Chine absorbe le plus grand nombre d'étudiants africains et même congolais sur des formations qui concernent l'ingénierie en matière de télécommunications et du numérique. Maintenant, là où nous attendons les Chinois, c'est dans l'établissement des partenariats sur des projets. Pas toujours dans les infrastructures, mais dans des projets, par exemple, de conception de logiciels, d'applications, des services.
Les opérateurs économiques et les chefs d'entreprise constituent 52% des participants à ce forum. Fort de cela, Paul Obambi, président de la Chambre de commerce de Brazzaville, appelle les gouvernants à améliorer le climat des affaires pour favoriser les investissements chinois.
Je pense que c'est à nous de créer les conditions pour que l'Afrique soit attractive.
Les financements, il y en a plein dans le monde. Donc si nous nous organisons, si le cadre structurel est en place, le cadre juridique est en place, s'il y a la sécurité des investissements, financer, c'est facile.
Sur la tribune officielle, 5 chefs d'État, Paul Kagame du Rwanda, João Manuel Lourenço de l'Angola, Félix Antoine Tshisekedi de la RDC, Faustin Archange Touadéra de la RCA et Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville ont unanimement appelé les Chinois à mettre plus d'argent dans le développement de l'Afrique. Félix Tshisekedi.
Depuis le début des années 2000, l'appétit des pays africains pour les investissements en infrastructures a conduit nombre d'entre eux à gager leurs matières premières pour assurer ce financement. Le résultat de ces expériences est aujourd'hui fort mitigé.
Avant d'ouvrir le forum, Sassou Nguesso a invité les Chinois à soutenir les jeunes entrepreneurs africains.
La maîtrise du numérique et de l'innovation technologique marquera encore, sans le moindre doute, les relations entre la Chine et l'Afrique. C'est pourquoi j'exhorte une fois de plus les investisseurs chinois à apporter un soutien significatif aux opérateurs africains du dit secteur.
Cette 5e édition du Forum Investir en Afrique prend fin demain jeudi. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Technologie encore, mais cette fois-ci aux États-Unis. Apple a présenté mardi les nouvelles versions de son iPhone. C'était en Californie à l'occasion du lancement annuel de ses produits. Outre les dernières mises à jour et les nouvelles offres, Apple a également attiré l'attention des consommateurs et des critiques sur sa nouvelle stratégie. Richard Green nous en dit plus. Le récit d'Arzuma Compaoré.
For our customers.
Pour nos clients en attente de la technologie la plus sophistiquée qui repousse vraiment les limites, nous avons créé quelque chose de vraiment spécial et je suis ravi de vous le présenter maintenant.
Au siège de la société Apple à Cupertino, en Californie, le PDG Tim Cook a annoncé que les nouvelles versions de l'iPhone révolutionnaire, iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max, ont désormais un troisième objectif de caméra, ce qui les approche de celles des smartphones rivaux de Samsung et Huawei. Le nouveau modèle offre une puce plus rapide, une plus grande autonomie de la batterie et plus d'options de couleurs. Bien que les appareils semblent similaires au modèle précédent, le changement le plus important provient du système de caméra amélioré. Le système à triple caméra à l'arrière comprend un objectif ultra large capable de capturer une vue panoramique. Le nouveau système permet également de filmer ce que Apple décrit comme la vidéo de la plus haute qualité sur un smartphone. Mais fait surprenant, Apple a fixé le prix de son iPhone 11 d'entrée de gamme à $700 comparé aux $750 de l'iPhone XR de l'année dernière et bien inférieur aux $1000 de l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max offert à $1099. La réduction de prix reflète la tendance récente des consommateurs à conserver leur téléphone actuel bien après l'introduction de nouvelles versions plus chères. Wayne Lam est analyste en technologie.
Vous avez des gens qui viennent de dépenser $1000 pour un téléphone. Ils ne vont pas en acheter un autre avant 2 ou 3 ans probablement. Il s'agit ici de capturer davantage des propriétaires de la génération précédente et ceux qui sont à l'extérieur de l'écosystème iOS.
Pour certains analystes du secteur, les nouvelles fonctionnalités de l'appareil photo sont essentiellement influencées par la pression exercée sur les concurrents d'Apple en Chine. Nicole Peng est vice-présidente de Canalys.
Je pense tout d'abord que l'accent sur l'appareil photo fait suite à la pression de nombreux fournisseurs chinois qui innovent beaucoup en matière de caméras et de technologies d'imagerie. C'est aussi une bonne synergie entre les autres services introduits par Apple dans l'écosystème Apple.
Tim Cook a également déclaré que toute personne achetant les nouveaux iPhones ou la mise à jour de l'iPad ordinateur de poche recevrait un abonnement gratuit d'un an au nouveau service de streaming vidéo Apple TV Plus qui commence le 1er novembre. Selon Apple, le nouveau service qui offrira des films et d'autres contenus originaux sera proposé aux nouveaux abonnés au prix de $5 par mois.
Cela le mettra en concurrence directe avec Netflix et d'autres services de vidéo en continu. La société a également présenté Arcade, un nouveau service de jeu. Apple a également lancé la nouvelle génération d'Apple Watch Series 5, estimée à $399 et qui comprend un nouvel écran Retina permanent et un iPad de 7e génération doté d'un écran plus grand au prix de $329. En toute vraisemblance, l'année prochaine sera une année importante pour Apple et ses concurrents mondiaux qui pourraient lancer leur premier smartphone 5G. Les nouveaux iPhones ainsi que les versions améliorées de l'iPad et de l'Apple Watch seront mis en vente le 20 septembre.
Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi en direct de Washington. À la console, Jimmy Cook. Merci à Michel Joseph pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Irénée Hermanongo à Washington. Bonne suite de programme sur VOA Afrique.